Vous écoutez Apprendre le japonais avec Louis Lin, le podcast qui vous apprend le japonais le plus rapidement possible. Apprendre le japonais pour les débutants. C'est ce dont on va parler dans cet épisode et plus précisément, j'aimerais parler des gros problèmes et de pourquoi 95% des gens qui apprennent le japonais abandonnent. C'est les gros problèmes, les gros, on va dire, pièges que la plupart des débutants en japonais, ils font face à ces problèmes et le résultat, c'est que la plupart des gens abandonnent. Alors, souvenez-vous que la plupart des gens qui commencent à apprendre le japonais, finalement, ils n'auront jamais de conversation normale dans cette langue. Alors, j'aimerais d'abord parler donc de ces petits problèmes. Donc, le premier problème que je vois que les gens font, c'est qu'ils ils suivent un peu le programme scolaire. C'est-à-dire que il y a une personne, par exemple, qui voilà, elle est allée à l'école. Vous êtes à l'université, par exemple, vous avez un travail et vous vous dites, ok, je vais apprendre le japonais. Ben, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils prennent un manuel scolaire pour le japonais, pour apprendre le japonais, et ils étudient ce manuel comme on faisait à l'école. Donc, on prend un manuel et on étudie. Ça, c'est vraiment le modèle scolaire qui, en soi, ne marche pas très très bien parce que si vous pensez vraiment, par exemple, à quand vous avez appris l'anglais à l'école, ou je sais pas, peut-être vous avez appris l'allemand ou l'espagnol, pensez un peu maintenant, vous avez passé plus de 7 ans à apprendre l'anglais, plus de, je sais pas, 5 ans à apprendre l'espagnol ou l'allemand. Est-ce que vous pouvez parler vraiment cette langue de manière sans problème, de manière vraiment avec aisance? Pour la plupart des gens, je pense que la réponse est non. Et pour les gens qui arrivent effectivement à parler anglais, allemand ou espagnol de manière presque comme un natif, c'est pas grâce à ces manuels, c'est pas grâce au système scolaire. Donc, le plus gros piège, vous ne devez pas tomber dans ce piège, c'est de suivre le modèle scolaire qu'on vous a inculqué pendant tant d'années à l'école pour apprendre les langues. Le japonais, il faut que vous preniez une approche qui soit totalement différente, surtout que le japonais est beaucoup, beaucoup plus dur que l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Donc, dans cette vidéo ou dans ce podcast, si vous écoutez sur une plateforme de podcast, j'aimerais parler un peu d'un programme étape par étape, parce qu'il n'y a pas qu'une seule chose que vous devez appliquer, c'est pas comme s'il y avait juste un secret que voilà, vous appliquez ça et vous allez devenir totalement bilingue en japonais. Il faut plus voir ça de manière plus d'un programme étape par étape qui va nous amener de A à Z. Ok, donc la première étape dont je voudrais parler, c'est ce que moi j'appelle dans mon vocabulaire, on va dire, l'initialisation. Et l'initialisation, en fait, ça consiste à apprendre vraiment les bases du japonais. C'est l'étape à laquelle la plupart des gens restent coincés. Donc, quand je vois sur, par exemple, les groupes Facebook, sur YouTube ou sur les sites internet, la plupart des gens passent leur temps, en fait, à étudier avec des manuels scolaires. Alors, effectivement, c'est pas quelque chose qui est inutile, mais c'est quelque chose qui doit être uniquement la première étape. Étudier avec des manuels, comprendre la grammaire japonaise de base, c'est uniquement la première étape, ce que j'appelle l'initialisation. Le problème que la plupart des gens ont, c'est qu'ils vont acheter ces manuels, et bien souvent ces manuels, il y a un deuxième tome, un troisième tome, etc., qui va de plus en plus en profondeur dans la grammaire japonaise. Et la vérité, c'est que quand vous êtes débutant, il n'y a pas vraiment besoin d'aller en profondeur. Vous n'avez pas besoin de commencer à tout apprendre ces manuels de japonais. Ce que je vous conseille, c'est de prendre uniquement le premier tome. Ne passez pas trop de temps sur ce manuel. Ne faites pas les exercices. Je suis pas vraiment pour les exercices de grammaire. Les règles de grammaire, c'est quelque chose que vous allez retenir beaucoup mieux en étant exposé à du japonais qui est vraiment naturel, en écoutant et en lisant. Donc, c'est bien effectivement de lire et d'apprendre un petit peu ces règles de grammaire, mais ne passez pas trop de temps sur ces manuels. C'est juste la première étape qui s'appelle l'initialisation. Alors ensuite, la deuxième étape, c'est ce que j'appelle les kanji. Alors là, c'est vraiment assez explicite. Il s'agit ici d'apprendre les kanji. Alors, je veux juste dire que dans ce programme étape par étape, c'est pas nécessairement des étapes qui sont séquentielles, c'est-à-dire vous n'allez pas faire numéro 1 l'initialisation et numéro 2 les kanji, comme ça à la suite, vous pouvez faire un petit peu en parallèle, je parlerai de ça dans un autre épisode. Mais parlons de la deuxième étape qui est les kanji. Alors les kanji, c'est quelque chose que la plupart des gens, ils ont énormément de mal avec les kanji parce que les kanji sont, alors si vous ne savez pas, c'est les caractères chinois, enfin c'est les caractères japonais du moins, qui sont hérités de la langue chinoise et il y en a des milliers en fait. Et pour les débutants, il faut au moins que vous en connaissiez 2000 pour pouvoir lire et comprendre le japonais écrit. Donc 2000 kanji, c'est énorme, surtout quand on sait que ces kanji en fait se ressemblent énormément, ou du moins pour les débutants, on voit pas vraiment la différence. Le plus gros problème ici, c'est que les gens vont commencer à apprendre les kanji, soit numéro 1 en faisant du recopiage, donc dans les manuels, hein. Souvent il y a des cases comme ça dans les manuels qui vous disent voilà, recopiez ce kanji 5 à 10 fois, hop hop hop, comme ça dans chaque case, et voilà, les gens pensent qu'ils apprennent bien comme ça. La deuxième méthode que les gens utilisent, et souvent en combinaison avec la première, c'est que les gens utilisent cette méthode qui est un peu étymologique en fait, hein. Donc l'étymologie, c'est l'histoire des kanji. Donc en fait, les gens, ce qui arrive souvent, c'est qu'ils prennent un kanji et ils regardent en fait qu'est-ce que ce kanji signifie, et ils superposent avec une image de la signification de ce kanji. Donc par exemple, si vous avez un kanji qui veut dire montagne par exemple, vous mettez le kanji pour montagne et vous superposez ce kanji sur une image de montagne, et vous voyez que voilà, ça ressemble un petit peu et ça permet d'apprendre. Mais c'est pas une manière efficace d'apprendre. Alors pourquoi est-ce que ces deux méthodes dont je vous ai parlé, que la plupart des gens utilisent, ne sont pas efficaces? Recopier et apprendre les kanji en utilisant des images, donc la méthode étymologique, c'est pas efficace parce que ça s'appuie sur la mémoire que j'appelle mémoire visuelle. C'est donc juste s'appuyer sur ce qu'on voit et se souvenir de ce qu'on voit. Le problème, c'est que, ou du moins le petit secret en quelque sorte que peu de gens connaissent, c'est que la mémoire visuelle est beaucoup moins forte qu'une autre mémoire dont je veux parler maintenant. Et cette mémoire, en fait, c'est la mémoire qui vous permet, par exemple, de vous souvenir de vos rêves. Alors, si vous pensez, par exemple, à... vous dormez, vous faites un rêve. Alors, il arrive des fois, la plupart du temps, que voilà, on oublie ses rêves, hein, dès qu'on se lève. Après, on oublie complètement de quoi on a rêvé pendant la nuit. Mais il y a des fois où on a des rêves, en fait. Par exemple, moi, je me souviens, j'ai des rêves que j'ai fait il y a 10 ans, peut-être, quand j'étais enfant, et je m'en souviens toujours. Et la raison, c'est pas parce que ces rêves... Enfin, c'est pas parce qu'il y a vraiment des images derrière ces rêves, c'est plutôt parce qu'il y avait une histoire, en fait, un concept derrière ces rêves, une suite d'événements logiques qui a fait que, voilà, enfin, ou du moins pas très logique, hein, dans le cas des rêves, mais c'était une suite d'événements qui m'a un peu choqué et qui fait que, même maintenant, je m'en souviens toujours. Alors ça, c'est ce que j'appelle moi la mémoire imaginative. C'est quelque chose, alors je sais pas exactement comment les scientifiques appellent ça, mais c'est ce qu'on va appeler dorénavant sur cette chaîne YouTube et dans mon podcast, on va appeler ça la mémoire imaginative. Donc la mémoire imaginative, vous pouvez aussi l'utiliser pour apprendre les kanji. Par exemple, donc si vous avez un kanji, donc les kanji, les caractères japonais sont faits de traits, hein, en gros c'est ça, et chaque trait peut avoir une signification différente. Donc par exemple, dans le kanji pour dans le kanji pour un mot compliqué par exemple, vous avez plusieurs composants, et chaque composant, vous allez leur donner une signification différente, et c'est donc chaque composant comme ça avec une signification différente, vous allez combiner ces significations en une histoire qui va vous permettre d'apprendre les kanji de manière beaucoup plus rapide. Donc en fait, tout ce qui vous suffit de faire, c'est de prendre ces composants, de leur donner des significations différentes. Donc il y a tous ces composants qui vont se combiner de manière différente dans différents caractères kanji en japonais, et vous devez combiner ces composants et faire en sorte que ça fasse une histoire. Alors c'est quelque chose dont je veux parler un peu plus en plus de détails, mais je ne vais pas parler de ça pendant 10 minutes ici parce que ce n'est pas le but. Ici, je veux parler un peu de toutes les étapes pour apprendre le japonais pour les débutants. Donc voilà, ça c'est pour les kanji. La prochaine étape dont je voudrais parler, c'est ce que moi j'aime bien appeler la daily session. Alors c'est un mot en anglais, c'est juste pour dire la session quotidienne. Alors c'est quelque chose que vous devez faire tous les jours, et en fait cette session quotidienne, ça consiste à apprendre du vocabulaire. Ce que énormément de gens ne comprennent pas dans l'apprentissage des langues en général, c'est que ce qui prend le plus de temps, ça n'est pas apprendre la grammaire, ça n'est pas faire des activités d'apprentissage des langues, c'est apprendre le vocabulaire. C'est juste parce qu'il y a tellement de mots en japonais qu'on ne comprend pas et qui sont nécessaires pour comprendre le japonais de manière courante, que vous devez concentrer énormément de votre temps à apprendre du vocabulaire. Alors là, je vous conseille d'utiliser ce qu'on appelle une application de répétition espacée. Alors c'est quelque chose qu'en anglais on appelle SRS, qui veut dire Spaced Repetition System. et c'est des applications de flashcards qui en fait prennent vos flashcards et qui les distribuent sur un calendrier de manière optimisée pour que vous puissiez apprendre et retenir les mots de manière rapide et sur le long terme surtout. Donc voilà, ça c'était la troisième étape. Donc je récapitule tout ce que j'ai dit pour l'instant. Donc c'est numéro 1, initialisation, donc toute la grammaire, tout ça. 2, les kanji en utilisant la mémoire imaginative. Et numéro 3, c'est la daily session, donc pour apprendre le vocabulaire. Alors maintenant, passons à la quatrième étape, et après il y aura une cinquième étape qui est la dernière. La quatrième étape, c'est ce que j'appelle l'immersion, c'est-à-dire vraiment être exposé le plus possible à du vrai japonais naturel, donc écouter le plus qu'on peut tous les jours vraiment des gens japonais qui parlent, mais à un niveau qui soit plutôt adapté à votre niveau en tout cas. Donc par exemple, vous pouvez écouter des podcasts en japonais qui sont à votre niveau, qui sont sur un thème que vous aimez. Vous pouvez aussi regarder des animés qui sont à votre niveau et essayer de comprendre le plus possible. Alors là, cette quatrième étape, l'immersion, il n'y a vraiment rien de très compliqué. Il faut juste que vous trouviez les bonnes ressources qui sont à votre niveau et qui sont intéressantes pour vous. Donc voilà, c'était l'immersion. L'étape numéro 5, c'est ce que j'appelle moi la mise en situation. Alors une fois que vous avez fait les 4 étapes, vous allez remarquer qu'en fait, j'ai parlé nulle part de il faut commencer à parler japonais. Et c'est justement dans cette cinquième étape que vous devez commencer à parler japonais avec la mise en situation. Alors la mise en situation, ce que j'aime bien faire, c'est vous allez essayer de trouver un correspondant ou plusieurs correspondants sur des sites d'échange de japonais et vous allez leur parler en japonais. Donc normalement c'est une vraie personne japonaise qui veut apprendre le français et vous êtes donc une personne française par exemple qui veut apprendre le japonais. Vous allez parler sur Skype ou sur Messenger ou sur Line par exemple. Vous allez faire 30 minutes donc en japonais où vous allez parler japonais et l'autre personne va vous corriger et vous allez probablement faire 30 minutes en français où la personne japonaise va essayer de vous parler français et vous allez la corriger. Donc ça c'est vraiment le plus courant, hein. Vous devez essayer de trouver une personne japonaise qui apprend le français, comme ça vous pouvez faire un échange linguistique. Alors ici dans la mise en situation, il ne s'agit pas seulement de juste parler comme ça des choses qu'on veut. Il faut vraiment essayer d'optimiser le peu de temps que vous avez à parler avec cette personne. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir plusieurs correspondants, plusieurs personnes avec qui vous exercez. Ça permet en fait de, par exemple, le lundi vous parlez avec une personne et le mardi vous parlez avec une autre personne. Mais sur ces deux jours, vous devez essayer de parler en fait des mêmes choses. Donc ça vous permet par exemple, le lundi vous allez parler de la nourriture japonaise par exemple, et le mardi vous allez aussi parler de la même chose, de la nourriture japonaise. Mais cette fois-ci, vous vous êtes bien plus exercé, vous vous êtes fait corriger, donc il faut essayer de parler mieux. Ça permet en fait d'avoir une sorte de répétition lorsque vous parlez et ça permet de vraiment mieux retenir et de développer des réflexes lorsque vous parlez japonais. Donc voilà, c'était les 5 étapes. Initialisation, kanji, daily session, immersion et mise en situation. Alors souvenez-vous que ces étapes ne sont pas nécessairement séquentielles. Vous n'avez pas besoin, ou du moins c'est pas idéal de faire 1, 2, 3, 4, 5. Elles sont parfois parallèles, donc je vais parler de ça dans un autre épisode plus tard. Alors, je n'ai pas encore fait cet épisode, mais entre-temps, j'ai une très bonne vidéo. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez regarder. C'est la vidéo qui s'appelle « Application pour apprendre le japonais gratuit ». Je vais mettre cette vidéo juste ici. Donc, vous pouvez cliquer ici si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes en train d'écouter le podcast, je vous invite à vous inscrire à mon podcast pour recevoir les notifications dans le futur. Donc voilà, c'était Louis Lin de louislin.com et on se retrouve dans un prochain épisode.